Merci, merci beaucoup et bonsoir, bonsoir à tous. Ce que je vais faire, c'est parler non pas seulement de la mutualité, mais des rapports entre mutualité et syndicalisme, dans la mesure où il y a des rapports, même si ça a été parfois et même longtemps, des rapports difficiles, voire des rapports de détestation. Mais c'est intéressant dans la mesure où, d'abord, je pense que vous ne connaissez pas forcément très bien l'histoire de la mutualité, parce qu'a priori, c'est un sujet extrêmement peu sexy sur lequel personne ne connaît grand-chose, alors qu'il y a beaucoup à dire. En revanche, on connaît mieux l'histoire du syndicalisme, et ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'histoire de l'un éclaire l'histoire de l'autre. Et que ce que je vais dire de la mutualité éclaire en creux une certaine histoire du syndicalisme, et vice-versa. Donc j'aborderai les deux en sachant qu'on ne peut pas parler de tout, mais enfin bon, ça c'est quand même intéressant et il faudra, je crois qu'il faudra aussi prendre un tout petit moment pour voir en quoi il y a en ce domaine une certaine exception française, et je parle sous le contrôle, dans la mesure où, bon, pour des raisons historiques que je vais expliquer, il est vrai qu'il y a une configuration assez particulière du syndicalisme et de la mutualité en France, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays d'Europe, et qui a eu des conséquences absolument décisives, tant sur l'un sur l'autre, et qui ont encore, à mon avis, des conséquences sur la gauche. Bon, alors maintenant, il faut que j'explique un peu tout cela, et bon, je vais donc partir d'un constat. Bon, l'histoire du syndicalisme, bon, vous en avez entendu parler. Vous avez d'ailleurs eu des cycles dessus. Je pense que si on dit CGT, Force ouvrière, CFTC, si on parle de Georges Segui, Krasuki, Nicole Notta, Marc Blondel, bon, ça, c'est des noms qui vous disent quelque chose. Bon, on a tous entendu parler de ça. Bon, maintenant, si je vous dis Fédération nationale de la mutualité française, André Borvaux, Jean-Pierre Davant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, bon, c'est un autre mouvement, le mouvement mutualiste. André Borvaux, Jean-Pierre Davant, René Teulade. René Teulade est un peu plus connu, il était ministre. Il était ministre, pas longtemps, mais enfin quand même un peu, dans les années 92. Bon, là, ça vous dira, ça, mais ça ne vous dira pas grand-chose. Et on est confronté à une première, comment dirais-je, un premier état des lieux tout à fait paradoxal, dans la mesure où, comme tu l'as dit, l'histoire de la mutualité précède celle du syndicalisme en France. Donc, on a, je ne parlerai pas de la coopération parce qu'on ne peut pas parler de tout, il y aura aussi beaucoup de choses à dire, mais bon, j'en parlerai pas, on ne peut pas. Bon. Bon, disons que la mutualité est dans l'histoire des mouvements sociaux français le plus ancien, puisque en gros, le syndicalisme prend son envol à partir de 1880, je vais revenir dessus, autour de, bon, en gros, 10 ans après la Commune, avec la loi de 1884, la loi Valdez-Crousseau. Alors que la mutualité est apparue bien avant. Bon, donc un mouvement social beaucoup plus ancien, puisque la mutualité, les sociétés de secours mutuels, apparaissent à la veille de la Révolution française et se développent avec la Révolution industrielle. Donc il y a presque un siècle de décalage et la mutualité est beaucoup plus ancienne. Deuxièmement, si je dis combien de divisions, parce que c'est quand même toujours intéressant de voir dans un mouvement qu'est-ce qu'il représente. C'est en histoire sociale, et pas seulement en histoire sociale, je crois que pour comprendre les choses, il faut voir cela. Bon, alors je vais donner quelques chiffres qui renvoient malheureusement à la situation aussi du syndicalisme aujourd'hui. Là aussi, je continue à parler sous ton contrôle, mais enfin, je crois que grosso modo, c'est des choses que l'on sait. En 1914, la CGT, qui était à l'époque la seule organisation syndicale nationale française, avait entre 400 000 et 450 000 adhérents. La mutualité, la Fédération nationale de la mutualité française, qui avait été créée à peu près en même temps que la CGT a été créée en 1995, la FNMF en 1902, la FNMF avait environ 4,5 millions d'adhérents, soit 10 fois plus. Si maintenant je prends le rapport qu'il y a entre syndicalisme en France et mutualité, on voit que le syndicalisme, toute organisation confondue, totalise quelques 3,5 millions d'adhérents. Là encore, je pense être plutôt généreux. Alors qu'il y a 30 millions de mutualistes. On retrouve donc à peu près ce rapport de 1 à 10. On retrouve à peu près ce rapport de 1 à 10. Vous allez me dire, un mutualiste et un syndicaliste, ce n'est pas la même chose. Je suis bien d'accord, mais enfin, ça donne quand même à réfléchir. Ça donne quand même à réfléchir. Et j'ajoute une chose, c'est qu'en 1914, le taux de syndicalisation qui existait en France était d'environ de 7 à 8%. 7 à 8%, alors qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne, pays plus industrialisés, même s'il y a industrialisation, il y avait pris des voies différentes, ce taux était d'environ 22%. 22%. Si maintenant on prend le taux de syndicalisation qui existe aujourd'hui en France, on a un taux moyen de 7 à 8%, donc le même qu'en 1914, avec évidemment des disparités très grandes entre le public et le privé, je ne peux pas détailler, mais vraiment, ceci doit quand même nous faire réfléchir. J'ajoute une chose, le syndicalisme français est certainement en matière de taux de syndicalisation un des plus bas d'Europe, c'était déjà le cas dans les années 70, c'est encore le cas aujourd'hui, et ces chiffres doivent nous faire réfléchir sur la situation du mouvement syndical. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'entre 1914 et aujourd'hui, le taux a toujours été de 7 à 8%. Nous allons voir qu'au contraire, ce taux a considérablement varié suivant les époques. Enfin, c'est quand même des chiffres, des réalités dont il faut partir parce que ça représente le paysage social actuel. Alors, donc, un mouvement social scindé entre le syndicalisme et la mutualité, un mouvement mutualiste beaucoup plus ancien, un mouvement mutualiste beaucoup plus fort, en 1914, encore de nos jours, tel est, si vous voulez, le point de départ. Et vous avez le point de départ, et il faut essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et c'est ce que je vais faire à partir de ce constat, en notant, vous allez me dire que ça concerne surtout les historiens, mais pas tout à fait seulement les historiens, que l'histoire du syndicalisme est infiniment mieux connue, encore que ça dépende des organisations, on connaît mieux la CGT, pas mal la CFDT, moins FO, même si nous y travaillons, même si Jean-Marie et moi, mais par contre l'histoire de la mutualité, et je pourrais développer ça très longuement, est très mal connue. On a donc, paradoxe supplémentaire, le mouvement social le plus ancien, le plus puissant, est certainement le plus mal connu. Bon, l'histoire de la CGT, tu m'as fait le plaisir de me citer, mais enfin, il y en a d'autres, et puis on a beaucoup travaillé. L'histoire de la Fédération Nationale des Mutualités Françaises, qui est bien plus importante que la CGT, bon, il y a une petite histoire qui a été faite. Un collègue, enfin, à la retraite qui s'appelle Bernard Gibault, a travaillé là-dessus. J'ai fait un petit bouquin avec lui. Mais enfin, bon, on attend toujours la grande histoire sur cette question. Donc, un décalage complet. Et effectivement, c'est des questions qui ne paraissent pas intéressantes. On viendra peut-être là-dessus. Alors, le plus simple pour essayer de comprendre ces différences, c'est de partir, de faire un gros déroulé chronologique. Donc c'est ce que je vais faire, en partant de périodes très anciennes et en allant jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon, après, évidemment, on discutera. Alors, bon, j'irai extrêmement vite sur les origines qui remontent, sinon à la nuit des temps ou aux sociétés les plus anciennes. J'en dirai quand même quelques mots pour voir comment tout ça germe. Je diviserai ensuite mon exposé en quatre parties. Une première qui ira de la Révolution française à 1852. Une seconde de 1852 à 1914, une troisième de 1914 à 45 et 1945, peut-être 1985, peut-être une petite conclusion. Donc vous voyez, des dates qui correspondent à peu près, je dis bien à peu près à des demi-siècles, mais qui ne sont pas choisies au hasard, et nous allons voir pourquoi au fur et à mesure. Alors, un petit rappel aux origines. La mutualité, on trouve des traces de mouvements mutualistes dans les sociétés les plus anciennes, en Égypte, en Grèce, à Rome. Et c'est les mouvements qui, pour aller vite, s'organisaient sur des bases religieuses, mais ça dans des sociétés où tout était religieux, ce n'a pas pour nous étonner. C'est des groupements d'entraide et de solidarité qui s'organisaient au sein du monde du travail. Au sein du monde du travail, c'est-à-dire que petite note en bas de page, tout ce dont je vais parler va essentiellement se passer dans les villes, dans le prolétariat, dans le monde du travail urbain, très peu à la campagne. Je ne peux pas parler de tout, il y a eu d'autres formes de solidarité à la campagne, mais la mutualité n'a pas pris la campagne et je n'ai pas le temps de parler du syndicalisme paysan, donc j'en parlerai très très peu. Donc la scène se passe essentiellement dans les villes. Troisième point, enfin, ces mouvements étaient généralement mal vus par les autorités, pourchassés par le pouvoir, et parce qu'ils s'en méfiaient. Je fais un saut rapide au Moyen-Âge, où apparaissent trois formes de groupements, les confréries, les corporations et les compagnonnages. En gros, les confréries, c'est l'organisation de la charité par l'appareil ecclésiastique. Les corporations, qui naissent à partir du Moyen-Âge et qui vont se poursuivre jusqu'à la Révolution, c'est l'organisation de la profession, une sorte de groupement d'intérêt économique, comme on pourrait ne pas dire, avec une hiérarchie stricte entre maître, compagnon, valet, et l'organisation économique de la profession. Au sein de ces corporations, il existait néanmoins un minimum de solidarité et d'entraide dans les cas difficiles, c'est-à-dire que en cas de pépin, de maladie, par exemple, en principe, l'artisan, le compagnon, était, sinon pris en charge, du moins un peu aidé. Et enfin, le compagnonnage qui apparaît lors de ces périodes de grands travaux que sont les constructions des cathédrales à partir du XIIIe siècle, et qui organise l'élite des artisans, dans lequel on peut voir l'ancêtre direct du syndicalisme, avec une différence, le syndicalisme a pour but de regrouper l'ensemble du monde du travail. Bon, je laisse de côté le problème de savoir s'il le fait ou non. Enfin, en tout cas, il le fait. Il veut regrouper l'ensemble des travailleurs. Alors que le compagnonnage regroupe seulement l'élite ouvrière et une élite extrêmement mince, extrêmement réduite. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, on trouve quand même le compagnonnage est une des sources du syndicalisme, et c'est d'ailleurs au sein du compagnonnage qu'on voit apparaître, ça se passe en 1720 à la bonne ville de Montpellier, où un certain nombre de compagnons charpentiers ont fait ce qu'on appelle une coalition, et on voit le gouverneur de la ville de Montpellier noter avec horreur que ces gens ont fait un syndicat. Il semble que le mot syndicat apparaissent pour la première fois à cette date, donc c'est dans le compagnonnage qu'on trouve les origines lointaines du syndicalisme. Et puis, donc, tel est le terreau, confrérie, corporation, compagnonnage, sur lequel s'est construite la mutualité, mais, encore une fois, nous sommes dans des sociétés rurales, je rappelle qu'à la Révolution française, 80%, 85% du pays vit à la campagne, donc le monde des villes est encore tout à fait réduit et limité, et vous imaginez la fragilité de ces organisations. On se situe également à une époque où, aujourd'hui on parle en termes de protection sociale, sécurité sociale, assurance sociale, etc. Il y a évidemment tout genre de choses qui n'existent absolument pas à l'époque, l'État n'intervient absolument pas sur ces questions, et disons qu'il se produit avec le siècle des Lumières, avec l'esprit des philosophiques, un début de renversement dans la mesure où, et tout ça va aider au développement ultérieur de la mutualité, dans la mesure où on passe d'une société d'ordre, d'autorité, de hiérarchie, de religion, à une société où on commence à pouvoir discuter, critiquer librement, parler, je ne veux pas dire de démocratie, mais enfin où un certain nombre de principes sont posés et on voit commencer à apparaître un certain nombre d'associations, d'organisations qui se posent la question de la prise en charge de la maladie, pas des retraites parce que c'est une notion qui apparaîtra beaucoup plus tard, mais enfin toutes choses qui vont servir de ferment intellectuel à la mutualité. Il y a un certain nombre de projets qui d'ailleurs ne verront pas le jour, mais peu importe, mais dont on voit un changement des mentalités qui va être tout à fait important. Là-dessus arrive la Révolution française, et c'est par là qu'il faut commencer, dans la mesure où, rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de la Révolution française, sauf pour insister sur un point sur lequel on a peu insisté lors du bicentenaire, lors de 1989, et qui est pourtant absolument essentiel pour comprendre le mouvement social de notre pays. Donc je ne reviens pas sur les aspects positif, progressiste de la Révolution française que vous connaissez mieux que moi, mais je veux évoquer une loi, pas forcément très connue, qui va avoir des conséquences absolument décisives. En effet, la Révolution française, au nom de la liberté de l'individu, au nom de la liberté d'entreprendre, décide qu'il ne doit plus y avoir de corps intermédiaire, de corps constitué entre l'État et le citoyen. Dès lors, on veut abattre ces survivances de l'Ancien Régime que sont confréries, corporations et compagnonnages. On le fait, et on va plus loin, puisqu'en 1791, donc on est au début de la Révolution, en juin 1791, à l'initiative d'un député, c'est un député de Bretagne, il s'appelait Isaac Guy Le Chapelier, est votée une loi qui interdit au monde du travail de se donner des associations, de se donner des formes quelconques de regroupement, qui interdit en quelque sorte l'association ouvrière. Alors cette loi, elle va être décisive. Vous allez me dire que ceux qui l'ont voté ne le savaient pas, mais peu importe, la question n'est pas là. Les conséquences de cette loi vont être décisives, dans la mesure où, avec la loi Le Chapelier, l'association ouvrière est interdite en France. Et cette loi va avoir des effets très longs, puisqu'il faut attendre la loi Waldeck-Rousseau, ministre de la Troisième République, votée en 1884, donc 1784, on est vraiment près d'un siècle, pour que la loi Le Chapelier soit définitivement abolie et que le syndicalisme puisse, l'organisation ouvrière, puisse se constituer librement. Et ceci est tout à fait décisif, dans la mesure où l'histoire du XIXe siècle, ça va être, on va y revenir, l'histoire de la révolution industrielle, du développement industriel, donc qui se fait sur le dos d'un monde du travail, d'un prolétariat, comme je disais, d'une classe travailleuse, de travailleurs, le terme que vous voudrez, je n'entre pas dans ce débat, mais dans des conditions extrêmement dures, dans des conditions où il n'existe aucun droit du travail, où il n'existe aucune protection sociale, et où la révolte ouvrière n'a aucun canal pour s'exprimer, puisqu'elle est interdite. Résultat, j'anticipe un peu, je reviendrai ensuite en arrière, on va avoir un certain nombre d'explosions sociales extrêmement fortes dans la mesure où il n'y a pas d'organisation qui peut porter des revendications et qui peut négocier. Il n'y a pas de canal de négociation. Je ne prends que les trois les plus connus. La révolte des canuts en 1831-1832. La répression qui suit les journées de 1848 en juin 1848. Vous savez que la Seconde République a eu au départ des ambitions généreuses, a voulu donner du travail et du pain aux ouvriers, a donc mis en place des ateliers nationaux. Ces ateliers nationaux ont mal fonctionné. Résultat des courses, le prolétariat parisien descend dans la rue pour demander du travail et du pain. Résultat, il se fait accueillir par la mitraille. Vous avez un très beau, c'est un épisode un peu oublié, mais qui est pourtant tout à fait décisif. Je rappelle le mot de George Sand, je n'aime pas une république qui massacre ses prolétaires. Et vous avez un très beau récit de, c'est un texte appuyé, c'est beau, mais enfin très, très détaillé de cette révolte dans un livre sur Paris de Éric Hazan. Je ne sais pas si vous avez lu, qui s'appelle L'invention de Paris, qui est un bouquin absolument génial, qui raconte l'histoire de Paris arrondissement par arrondissement, tous les lieux historiques que peut contenir Paris, et Dieu sait s'il y en a. Et il y a un chapitre sur la révolution de 1848 qui est absolument fabuleux, qui retrace là. Je rappelle qu'il y a eu quelques 10 000 morts. Et le troisième épisode, c'est évidemment la commune. On ne va pas refaire l'histoire, mais enfin la commune, c'est aussi une explosion ouvrière, sans doute plus forte, puisqu'il n'y avait aucun canal d'expression possible. Eh bien, tout ça est contenu dans la loi de Chapelier. Alors, qu'on m'entende bien, évidemment, ceux qui l'ont voté étaient incapables de penser et d'imaginer ce genre de choses. On n'a jamais vu des politiques penser à aussi long terme. Mais il n'empêche que cette loi a eu des conséquences terribles. Et je voudrais citer D'abord, une expression de Jean Jaurès, le grand historien, vous savez, le grand tribun socialiste qui a aussi dirigé une grande histoire de la Révolution française. Jean Jaurès, lui, à la différence de beaucoup d'autres, s'est intéressé à la loi Le Chapelier. Et il en parle, il la définit comme la loi terrible contre le monde du travail, parce qu'elle le muselle et qu'elle le muselle longtemps. Deuxième fait qui montre l'ombre portée de cette loi Le Chapelier, depuis les années 1880, donc quelques années avant qu'elle soit votée, un certain nombre de syndicats commençaient à s'organiser parce que le développement parce que le développement de la grande industrie, parce qu'il fallait quand même trouver des moyens. Donc, bon, en quelque sorte, la loi de 1884, c'est aussi l'expression, la reconnaissance d'un certain état de fait. On pourrait donc se dire qu'avec la loi, je veux dire, ces premiers syndicalistes ont été contents parce qu'enfin, ils avaient la liberté et qu'ils ont bien accueilli la loi. Ben, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'était le contraire. Michel Perrault, une grande historienne qui a beaucoup travaillé sur cette période, qui travaille maintenant sur l'histoire des femmes, a montré, chiffres à l'appui, après travail dans les archives, recherches, etc., qu'on voyait commencer à se créer des syndicats à la limite de la légalité, à la limite de la légalité depuis environ 1880, et que, contrairement à toute attente, la loi Valdez-Cruz, avec la loi Valdez-Cruzot, le nombre de créations syndicales chute, et ça va repartir seulement au bout de quelques années. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi demandait que soit déposé à la préfecture le nom des responsables, de trésoriers, de secrétaires et d'archivistes. Et les syndicalistes de l'époque étaient tellement marqués par cette loi qu'ils n'ont vu qu'une chose, c'est un instrument supplémentaire pour nous réprimer. Là-dessus, ils se sont trompés. Mais nous savons qu'ils se sont trompés. Mais eux, je veux dire, c'était tout à fait compréhensible de leur point de vue. Et tout ceci s'explique par cette loi de l'échappée. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la mutualité ? Patience, je vais y venir. Mais je raconte tout ça parce qu'il est indispensable de comprendre qu'en France, le syndicalisme s'est construit d'abord contre l'État. On ne comprend rien à l'histoire de notre mouvement syndical et d'abord de la CGT parce que, bon, évidemment, les choses ont beaucoup diversifié, ont changé. Mais, le syndicalisme français s'est d'abord construit autour d'une organisation qui s'appelle la CGT. Eh bien, la CGT, elle s'est d'abord construite contre l'État. Et là, c'est une grande différence par rapport aux autres pays européens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de révolution aussi forte que la Révolution française, ils n'ont pas eu de la loi de Chapelier, donc les choses se sont passées complètement différentes, de façon complètement différente. Je ne dis pas qu'elles s'y soient mieux passées, je dis qu'elles s'y sont passées de façon différente, et que le syndicalisme de notre pays, qui est encore tellement dans un langage de contestation, de revendication, d'opposition, tout ça, ça s'explique par cette très, 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 très longue histoire, et par cette loi de Chapelier. Alors, j'en reviens maintenant... aux années qui suivent la Révolution et où on va voir les débuts de la Révolution industrielle, je passe sur la période napoléonienne, les débuts de la Révolution industrielle en France, on les situe vers 1820, donc on voit l'apparition d'un prolétariat qui vit dans des conditions épouvantables, qui n'a donc aucun canal pour s'exprimer, et on ne voit qu'une chose, c'est que les seules organisations qui sont tolérées, ce sont les sociétés de secours mutuels. Il est apparu quelques sociétés de secours mutuels à la veille de la Révolution française. Elles étaient tellement insignifiantes, car la Révolution française, elle n'intéresse personne. On en piste quelques-unes, on en trouve quelques-unes. J'ai même pu consulter les archives, c'était mouvement de la plus ancienne société existant en France. Miracle, ces archives existent encore. On en voit donc la société traverser la Révolution avec quelques difficultés, mais pas trop. Et on voit, avec la Révolution industrielle, se développer ces sociétés de secours mutuels qui sont relativement tolérées, par le pouvoir, à la condition que, suivant la loi Le Chapelier, elles ne fassent pas de politique, à la condition qu'elles ne fassent pas de revendications, mais si elles mettent un peu de rouage, un peu d'huile dans le corps social, si elles prennent un minimum en charge le monde du travail à un moment où il n'a rien, ma foi, on peut les laisser faire. Et on voit même quelques notables, même Louis XVIII, les patronnés, un certain nombre de sociétés. On est donc, et ça va être le cas jusqu'au Second Empire, dans une situation difficile à définir, où vous avez des sociétés de secours mutuels qui se développent. Il y a quelques dizaines, il y en avait 140 à Paris en 1822. En 1848, on estime, pour autant qu'on le sache, qu'il y a environ 250 000 mutualistes adhérents à une société de secours mutuel en France. Bon, ce qui n'est quand même pas rien. Et on voit que ces sociétés de secours mutuel, elles ont une double fonction. Elles prennent en charge les besoins sociaux, c'est-à-dire essentiellement encore très peu la retraite, parce que la retraite, ça va venir beaucoup plus tard. Mais elles prennent en charge un minimum la maladie et les obsèques, je rappelle qu'il n'existe aucune législation sociale en ce domaine, il leur arrive également de jouer plus ou moins le rôle de syndicat avant la lettre, des sociétés de résistance. Donc c'est à la fois des sociétés de prise en charge, sociétés de résistance, qui sont à la limite de la clandestinité, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. La nature ayant horreur du vide, ça ne peut pas être franchement des syndicats, mais ça peut quand même jouer parfois plus ou moins le rôle de syndicat. On voit les sociétés se constituer, se dissoudre, être aux marges de la clandestinité, etc. etc. Bon. Donc, une double fonction. Et puis, tout va changer à partir du Second Empire. Tout va changer à partir du Second Empire, dans la mesure où il va se produire un deuxième événement décisif, là aussi, en longue portée pour notre mouvement social, c'est le fait que Napoléon III, bon, vous le savez, est élu président de la République, fait un coup d'État en 1851, se proclame empereur et rétablit le Second Empire en 1852, et Napoléon III, qui, contrairement à ce que dit Victor Hugo, n'était pas un imbécile, va complètement transformer la mutualité. Il va complètement transformer la mutualité dans la mesure où il va confier, il va inventer un nouveau type de société de secours mutuel qu'on appelle les sociétés approuvées, ou qu'on appelle parfois la mutualité impériale, société qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, en particulier le fait qu'elles peuvent déposer leurs fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez, la Caisse des dépôts, cette super banque créée en 1816 en France et qui existe toujours, extrêmement puissante. Elles peuvent placer donc leurs fonds à la Caisse des dépôts à un taux très avantageux. Ça représente donc une forme de subvention. Elles peuvent bénéficier de locaux. Elles ont un certain nombre d'avantages. Mais il y a une réorganisation des sociétés qui fait que, d'une part, première chose, auparavant, pas mal de sociétés, pour autant qu'on les connaisse, étaient organisées sur une base professionnelle. Les charpentiers, les bijoutiers, etc. Donc là, on pense à un syndicat. Changement avec Napoléon III. Désormais, les sociétés seront organisées sur une base géographique et non plus professionnelle. Géographique, ce qui veut dire que l'ensemble des classes sociales, les riches et les pauvres, s'y trouveront. Et c'est d'ailleurs bien le but du pouvoir. Deuxième chose, ces sociétés sont maintenant dirigées par les notables, c'est-à-dire toute la crème de la société, l'industriel, le banquier, le propriétaire, le médecin, le propriétaire terrien, j'en passe, etc. Bref, tous ceux qui pensent bien, tous ceux qui sont du côté du pouvoir, et d'ailleurs il y a des enquêtes de moralité sur le président, et par contre, ces notables qui gèrent les sociétés n'ont pas droit aux prestations, et inversement, ceux qui adhèrent aux sociétés et qui ont droit à des prestations notamment en termes de maladie, n'ont plus droit à la parole. Donc, il se met en place un instrument de contrôle social extrêmement fort, et qui va bien fonctionner, dans la mesure où, à la fin du Second Empire, il y a quelques 800 000 mutualistes en France, 800 000 environ. Sur ces 800 000, la grande majorité, ce sont des mutualistes des sociétés approuvées. Dans ces sociétés approuvées, il y a quelques 100 000 membres bienfaiteurs. 100 000 membres bienfaiteurs qui veillent donc sur ces mutualistes comme la prune à leurs yeux. Mais évidemment, vous l'imaginez, on ne fait plus de politique, on ne mène plus de grève, on est tout à fait dans les normes, on est tout à fait dans ce que demande le pouvoir, on s'occupe, on fait de l'assistance, mais on ne fait plus du tout résistance. Et dès lors, ces sociétés de secours mutuel qui auparavant pouvaient jouer le rôle d'un syndicat, dès lors, elles ne le jouent plus. Elles ne jouent plus et on voit s'opérer une séparation qui va être extrêmement longue entre ces deux branches du mouvement social que seront ultérieurement, dans une vingtaine d'années plus tard, le syndicalisme et la mutualité. Alors évidemment, ça met du temps à regarder, mais enfin, quand on regarde, c'est extrêmement net. Et pour vous montrer combien cette séparation est longue, je vais vous donner quelques faits. Sous la Commune, les mutualistes qui continuent de se développer, la Commune, pour eux, ce n'est pas leur problème. Je trouve que j'ai eu la chance de travailler sur deux archives de sociétés de secours mutuel de l'Est parisien. Bon, donc là où s'est passée la Commune. Pendant la période, évidemment. Il n'y a rien. rien. On arrive, à force de chercher, à trouver une déclaration d'un mutualiste qui explique que, certes, en 1871, il s'est passé des choses épouvantables. Dieu merci, c'est terminé. Nous reprenons tranquillement nos activités. C'est fini et tout va bien. Donc, à partir de cette époque, autant la commune est dans l'histoire de notre mouvement social, et je crois que vous en avez eu un exposé ici, je veux dire, un événement symbolique, fondateur, fondamental, mémoriel, enfin bon, que sais-je, je ne développe pas, autant dans l'histoire de la mutualité, la commune, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est vraiment dans un autre monde. On est dans un autre monde. On est dans un monde où on prend en charge, où on commence à s'occuper de la maladie. On voit que effectivement le développement des sociétés de secours mutuel permet une meilleure prise en charge des problèmes de maladie. On voit que qu'on commence à construire quelques retraites, mais on ne revendique plus. On n'est plus du tout dans l'optique syndicale. Pour vous montrer combien cette séparation est longue, je fais un petit saut dans le temps. J'ai dit que le mouvement mutualiste va se regrouper à peu près d'ailleurs au même moment que le mouvement syndical en commençant à se doter d'une organisation nationale, la Fédération nationale de la mutualité française en 1902. Eh bien, il faut attendre 1970, je dis bien 1970, pour qu'aient lieu les premières rencontres au sommet entre la Fédération nationale, la CGT, FO et la CFDT. 1970. 1961, 1972. Autre signe, il est toujours intéressant dans une organisation de voir quels sont les gens qui en ont la responsabilité, quels sont ceux qui la dirigent, parce qu'ils sont évidemment l'expression de l'organisation. On peut le faire, je l'ai fait pour la Fédération nationale des mutualités françaises, j'ai pu repérer, je veux dire, au niveau national, au niveau national de 1902 à nos jours, il y a eu environ un millier de responsables nationaux, présidents, comités exécutifs, etc. Jusqu'en 1902 à 1945, environ 350 personnes, 350 responsables nationaux. Dans ces 350 responsables nationaux, je trouve un socialiste, un militant, qui a, c'est un tour de force, je ne sais pas pourquoi, j'espère le savoir un jour, d'être à la fois responsable mutualiste, socialiste et cégétiste. La scène se passe dans la bonne ville de Limoges, il s'appelle Jean Rougerie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, j'espère le savoir un jour, mais c'est une exception. Tous les autres que l'on trouve, que l'on connaît, donc on commence à connaître, pas tous, mais enfin une grande majorité de biographies, n'ont rien à voir avec le mouvement ouvrier. Donc on a vraiment un mouvement, deux mouvements, qui dès lors se séparent complètement. Et ceci va avoir des conséquences décisives dans la mesure où, je dirais que ça a des incidences et sur l'un et sur l'autre. J'ai dit que le syndicalisme en France s'est construit contre l'État. J'ajoute que le syndicalisme en France, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays européens, et là aussi il faudra en discuter, le syndicalisme va peu s'impliquer dans ce qu'on appelle la prise en charge des services. Les services, c'est par exemple aujourd'hui un syndicat qui gère une caisse de sécurité sociale. Bon, mais la sécurité sociale, on a commencé en 1945, il y a eu un système avant qui s'appelait les assurances sociales, certains syndicats, pas tous, ont géré les assurances sociales, bon, et on peut remonter comme ça avant. Bien, on va voir que le syndicalisme français, parce qu'il considère que c'est du réformisme, parce qu'il considère que ça, mon Dieu, c'est à la mutualité de le faire, parce qu'il considère, en tout cas c'est ce que dit la CGT jusqu'en 1914, c'est bien plus important de penser la révolution, de faire la révolution, donc il méprise complètement ce genre de choses. Inversement, les mutualistes qui ne veulent pas du tout faire la révolution, ça je peux vous dire, ça vous l'avez bien compris, qui sont du côté du pouvoir, qui sont tout à fait, je ne veux même pas dans un réformisme, qui sont complètement intégrés, qui veulent développer leurs œuvres, qui veulent développer leur système de retraite, leur réalisation sociale, n'ont évidemment plus rien à voir avec les syndicalistes. L'idée de faire des grèves est une chose absolument horrible. Et les mutualistes considèrent les syndicalistes comme des dangereux agités du bocal, alors que pour les syndicalistes, les mutualistes sont des affreux réformistes, des traîtres, des jaunes, des vendus, et j'en passe, Bon. Et ça a des conséquences sur les deux mouvements, dans la mesure où ça les éloigne chacun, ce qui fait que les syndicalistes sont d'autant plus revendicatifs, et les mutualistes le sont d'autant moins. Les mutualistes le sont d'autant moins. Et on touche d'ailleurs ici une particularité française qui est quand même assez étonnante, c'est que quand on regarde la façon dont se constituent ces organisations nationales, bon, on voit que tout ça, ça se passe à peu près au même moment, ainsi que les partis politiques. La CGT se constitue, après enfin, des débuts difficiles, mais enfin une organisation nationale en 1895, la Fédération nationale des mutualités françaises en 1902, le Parti socialiste SFI en 1905, la Fédération nationale des coopératives de consommation dont je ne pourrais pas parler en 1909, tout ça, ça se passe au même moment, mais en France, vous avez le parti, et puis à côté le syndicat, puis à côté la mutuelle, et puis à côté la coopérative. Et surtout, ne nous mélangeons pas, ne travaillons pas ensemble. Maintenant, si nous allons en Belgique, la Belgique qui n'est quand même pas si éloignée, on voit que, pour des raisons que je ne peux pas développer, mais je vous le signale, que tout est complètement différent, puisque dès 1885, se constitue au sein de ce qu'on appelle le Parti ouvrier belge, à peu près l'équivalent de la SFIO, un parti qui regroupe le parti, le syndicat, la mutuelle et la coopérative. Donc, à partir de là, vous imaginez bien que le mouvement social est complètement différent. Dans un cas, il est complètement fractionné, dans un autre, il est complètement groupé. Bon, on pourrait parler de l'Allemagne, de l'Autriche, je ne développe pas, mais enfin, voyez comme quoi se mettent en place des choses extrêmement, extrêmement différentes. Et pour montrer en quoi ces cultures sont, comment dirais-je, très très différentes, je vais prendre un exemple que je cite toujours parce qu'il est beau comme l'antique, et puis il est vrai, il permet de bien comprendre des choses. C'est, j'ai dit qu'en matière de protection sociale, de même qu'en matière de législation du travail, il n'y avait à peu près rien au XIXe siècle. Et puis les choses vont commencer à changer lentement à partir de la fin du XIXe siècle. Il faut bien comprendre que des notions comme l'État doit s'occuper de ces questions, ça nous paraît des évidences, mais ça n'a pas toujours été des évidences. Historiquement, c'est quelque chose qui a bougé. Or, en gros, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'État ne faisait pratiquement rien. Peu à peu, et ça nous renvoie à des problèmes extrêmement actuels, on a vu, à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1980, l'État intervenir de plus en plus dans l'économie et le social. Une question qui se pose, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le chemin inverse? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à des engagements de l'État? Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Bon, toujours est-il qu'à partir des années 1900, on se dit qu'il faut commencer à mettre un peu d'État, il faut commencer à légiférer, et en particulier en matière de protection sociale. Alors, en matière de protection sociale, il n'existe en France à l'époque aucun système de retraite. On voit qu'un certain nombre de professions, parce que plus exposées, parce que plus dangereuses, je pense aux marins, je pense aux mineurs, d'autres ensuite, ont commencé à obtenir des retraites, mais il n'existe aucun système général de retraite en France, préhistoire de la sécurité sociale. Et puis on commence à en parler, on commence à en discuter, c'est extrêmement long, ça prend 30 ans, le premier projet est proposé par Martin Nadeau en 1880. Martin Nadeau, vous savez, l'illustre auteur de cette formule « quand le bâtiment va, tout va ». Et finalement, en 1910, on va voter un système de retraite qu'on appelait à l'époque les retraites ouvrières et paysannes, qui était un début d'instauration de retraite aux salariés les plus modestes, mais bon, qui annonçait déjà, là aussi bien sans le savoir, la sécurité sociale avec le système de la double cotisation et le fait que la retraite était liée à un salaire. Bon. Quand j'imagine que il y a peut-être parmi vous un certain nombre de syndicalistes, et comme vous, vous êtes attachés, comme moi, vous êtes attachés aux retraites, et vous pensez évidemment qu'il faut les défendre. Donc, traduction. En 1910, on pourrait se dire que l'optique moyenne d'un syndicaliste qui a dit à CGT, c'est « Bon, d'accord, la loi, c'est pas formidable, faudrait la généraliser, etc. » Bon, c'est un premier pas, c'est un progrès, donc on va être favorable à la loi. Ben, c'est pas du tout ça. C'était exactement le contraire. C'est exactement le contraire, parce que la CGT, à l'époque, jusqu'en 1914, presque jusqu'en 1914, elle est dans une optique syndicaliste révolutionnaire. En gros, elle pense que la société capitaliste est injuste, sans quoi elle a raison. Elle pense donc qu'il faut faire la révolution, ça peut se concevoir. Elle pense, alors là elle se trompe, qu'elle est la seule, je schématise évidemment, voilà, c'est quand même vrai, elle pense qu'elle est la seule à pouvoir faire la révolution, là-dessus elle se trompe complètement parce qu'elle surestime ses forces. Et donc, comment voulez-vous dans ces conditions qu'elle s'intéresse à un système de retraite? Et d'ailleurs, bon, le débat était long à la CGT, bon, un responsable de l'époque, bon, enfin, qui est mort avant, mais qui a joué un très grand rôle dans le syndicalisme français, Maurice Pelloutier, explique, bon, il est mort avant, mais bon, peu importe, il participe, explique à ses camarades, vous ne pouvez pas à la fois vouloir faire la révolution et à la fois demander des retraites. Bon, mais c'est ça, je veux dire, l'état d'esprit du syndicalisme français avant 1914. Et ça va là aussi avoir une ombre portée très forte ensuite, j'en dirai quelques mots. Et donc on voit à travers cet exemple que quel est l'état d'esprit du syndicalisme français. Je dois dire que du côté des mutualistes, on a aussi suivi le débat. On n'a pas été beaucoup plus clairvoyant dans la mesure où pour les mutualistes, bon évidemment, développer la protection sociale, apparemment c'était bien, mais il y avait un gros inconvénient. Si c'était l'État qui prenait en charge ce genre de choses, il l'ôtait et coupait en quelque sorte l'herbe sous le pied aux mutualistes, et alors donc ils ont été très très réticents. Bon, tout ça pour vous dire que la loi, en plus, a vu l'opposition des paysans, du patronat, de l'Église, des économistes, etc. Donc il y a eu le plus grand mal à s'imposer. Donc l'idée, cette loi qui est vraiment une loi qui annonce la sécurité sociale, n'est pas allée de soi du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions des uns et des autres dans la mesure où elles montrent un peu quel est, leur état d'esprit. Et puis, tout ceci va être complètement bouleversé par la Grande Guerre. Bouleversé par la Grande Guerre, et le syndicalisme va être bien davantage bouleversé par la Grande Guerre que la mutualité. Quelques mots sur la mutualité. Bon, la mutualité va être touchée par tout le pays, par la Grande Guerre. Elle va y perdre des plumes, elle va voir un certain nombre de sociétés désorganisées, elle va perdre évidemment des adhérents et des responsables. Pour autant qu'on le sache, elle aurait perdu quelques 800 000 adhérents de 1914 à 1918. Bon, tous ne sont pas morts, mais il y a une désorganisation des sociétés parce que la mobilisation, parce que l'occupation des départements du Nord, etc. Mais elle arrive quand même à s'en sortir mieux. Et surtout, comme l'ensemble du pays, la mutualité va comprendre une chose. Vous savez, la Grande Guerre, ça a créé un nombre de blessés, de veuves, d'orphelins, d'anciens combattants. Il y avait 3 millions d'anciens combattants en 1930, absolument considérable. Et il y a un point sur lequel mutualistes et syndicalistes pensaient un peu la même chose en se trompant complètement, c'est qu'à eux seuls, ils arriveraient à les uns à faire la révolution, les autres à donner une retraite et à prendre en charge tout le pays. Bon, la mutualité en est loin, puisque même si elle a fait des gros progrès avant 1914, elle couvrait 10% de la population du pays. Donc il y avait encore du chemin à faire, même s'il y avait eu une grande progression. Mais la mutualité pensait qu'elle allait seule y arriver. Un des grands enseignements de la Grande Guerre, c'est qu'en raison des désastres que la guerre a provoqués, on se rend compte, et on se rend compte vite, que désormais l'initiative privée, qu'elle soit syndicaliste ou mutualiste, ne suffit plus, mais il faut l'État. Et que cette intervention de l'État, qui a posé tellement de problèmes avant 1914, qui a été tellement rejetée par la majorité des syndicalistes et des mutualistes, on se rend compte que désormais, il faut faire avec. Et à la limite, on perd les illusions que l'on a pu avoir, aussi bien du côté syndical que du côté mutualiste. Et ce qui va se passer en matière de protection sociale, et c'est tout à fait décisif, là encore, pour comprendre l'histoire des deux mouvements, à partir de l'entre-deux-guerres, c'est un apprentissage d'une coopération avec l'État, parce qu'il faut bien faire avec. Tout le problème étant de savoir jusqu'à quand, jusqu'où, comment peut-on coopérer, et tout ça, évidemment, difficile à apprendre, à mettre en place. Je reviens un peu sur l'histoire de la CGT pendant la Grande Guerre, parce que là, les changements sont considérables. J'ai dit que, en gros, jusqu'à la guerre, la CGT se veut syndicaliste révolutionnaire, se veut antimilitariste, antipatriotique. ne veut rien avoir avec le système. Et puis, avec la guerre, elle va basculer en quelques jours. C'est une des choses les plus difficiles à comprendre pour l'historien. Ça, et pourtant, on a scruté ça, on a regardé ce qui s'est passé au début de la guerre, mais je dirais heure par heure. Et on voit que la CGT, qui quelques jours encore avant les déclarations de guerre, nous nous mobiliserons contre la guerre, nous ne laisserons pas faire, nous nous mobiliserons avec nos camarades allemands, etc., est complètement envahie, je crois, par la vague nationaliste, et va se rallier à ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire l'union de tous les Français, pour faire la guerre contre l'Allemagne. Et que donc, la CGT abandonne tout ce en quoi elle avait cru, elle adore ce qu'elle avait brûlé, elle brûle ce qu'elle a adoré. Et désormais, elle va s'inscrire beaucoup plus dans la négociation, dans la réforme, l'idée étant à peu près que, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la guerre et des demandes qui vont être faites à la classe ouvrière, notamment en matière d'usines, etc., il faut essayer d'obtenir un certain nombre d'avantages. Il faut coopérer avec tous les gouvernements, il faut coopérer à tous les échelons, avec le gouvernement, essayer d'obtenir ce qui est possible. Bref, un changement radical d'orientation qui est tout à fait surprenant. Et qui est tout à fait surprenant, mais qui va être quelque peu mis à mal dans la mesure où la guerre va durer bien plus longtemps qu'on ne le pense, va faire bien plus de souffrances qu'on ne le pense, et qu'une minorité va s'opposer à la guerre, minorité de plus en plus importante, même si elle reste minoritaire, minorité qui va évidemment être confortée par la révolution russe en 1917. Et donc, au sortir de la guerre, on a deux CGT, on va avoir deux CGT, de même que vous savez que le Parti Socialiste connaît une scission avec la création du Parti Communiste à Tours en 1920, on va avoir deux CGT, l'une, la CGT confédérée, proche des socialistes, dirigé par Léon Jouot. Léon Jouot est arrivé à la tête de la CGT en 1909. Bon, il a été, je veux dire, de ces, comment dirais-je, acteurs de ce tournant décisif pendant la guerre. Il va rester à la tête de la CGT confédérée. Et à côté, enfin en 1921, va se créer une deuxième CGT, la CGT dite unitaire, CGTU, qui va bientôt être, qui est essentiellement au départ animé par des communistes et par des anarchistes. Au cours des années 20, les anarchistes vont en être peu à peu évincés, et à partir de 1930-1931, avec l'arrivée de Benoît Frachon à la tête de la CGT au pouvoir en 1931, désormais la CGTU est dirigée par des communistes. Donc deux CGT d'inégale importance, l'une qui désormais s'inscrit dans la réforme et la négociation, et l'autre, la CGTU, qui reprend à peu près le discours de la CGT d'avant 1914. On n'en veut pas, je veux dire, on veut faire la révolution. Et, le paysage syndical est enfin changé dans la mesure où apparaît une troisième organisation, la CFTC. La CFTC qui se constitue en organisation nationale, même si ça peine une organisation nationale, en 1919. Donc le paysage syndical a complètement changé par rapport à 1914. Et on va voir dans cette période, sur certains problèmes, un premier rapprochement, mais il sera limité, très limité même, entre la CGT confédérée, parfois la CFTC, mais pas du tout la CGTU, et les mutualistes. Et entre la CGT confédérée, la CFTC, mais pas la CGTU, et les mutualistes, sur la deuxième grande loi sociale qui annonce la sécurité sociale, les assurances sociales. Les assurances sociales, dans la mesure où la guerre a rendu complètement caduque la loi de 1910, la guerre a posé des problèmes sociaux énormes, donc il faut revoir de fond en comble la protection sociale du pays. Et troisième raison, vous savez qu'avec la victoire, la France a récupéré les trois départements d'Alsace-Lorraine, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, qui avaient été rattachés à l'Allemagne en 1870. Or, l'Allemagne a mis en place, sous Bismarck, de 1883 à 1889, un système d'assurance sociale couvrant la retraite, la maladie, la vieillesse, et où les syndicats participaient activement. Donc les trois départements en question, évidemment, reviennent en France avec leur système. Donc la question qui se pose en 1918, dès leur retour, c'est, la France étant en principe uni indivisible, est-ce que le système va être maintenu ou non? Vous imaginez bien que dans le contexte de la victoire, il était d'abord impensable de dire à ces trois départements « Ah ben non, on vous reprend ce que vous avez », et que d'un autre côté, c'était d'autant moins pensable qu'il fallait revoir ça de fond en comble. Donc, ça veut dire que dès 1920, la question des assurances sociales est posée, donc la question d'une protection sociale à un plus haut niveau. Petite incidente, là aussi, il faut le savoir, les assurances sociales en Allemagne ont été très gérées très rapidement par les syndicats. En 1914, les assurances sociales allemandes couvrent environ 15 millions de personnes. 15 millions de personnes, donc beaucoup plus que la petite loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui a couvert au mieux 3 millions de personnes. Les assurances sociales couvrent non seulement les retraites, mais aussi la prise en charge de la maladie et la prise en charge de la vieillesse. Et à travers trois systèmes de caisses, où les syndicats sont ou majoritaires ou à part égale. Et on voit donc, à travers ce nouvel exemple, comment les syndicats allemands se sont engouffrés dans ce système, en ont eu une audience très forte, alors qu'au même moment, la CGT dénonçait complètement les retraites ouvrières et paysannes. Et je pense que cet exemple montre aussi comment on a des syndicalismes extrêmement différent. J'ajoute que les syndicats allemands se sont servis de ces caisses pour élargir leur influence et ont gagné des permanents, une audience, etc. Toute chose que n'a pas la CGT. Et d'ailleurs, quand on regarde en termes d'organisation de permanents, je crois qu'en 1914, la CGT doit avoir 4 permanents nationaux en tout et pour tout, ce qui fait doucement rigoler les syndicalistes allemands qui en ont beaucoup plus. Donc, à partir de là, vous voyez comment on a des syndicats complètement différents. Je sais, il va se passer un tas de choses, et des plus tragiques ensuite en Allemagne, mais enfin, bon, ça donne quand même des cultures extrêmement différentes d'un pays à l'autre, et il faudrait parler de l'Autriche-Hongrie, enfin de la Scandinavie, etc. Je n'ai pas le temps ici. Donc, pour en venir à la France, on voit donc un timide début de rapprochement qui va s'opérer sur l'affaire des assurances sociales entre mutualistes et certaines organisations syndicales. Il va surtout se passer pour le mouvement syndical un moment extrêmement important en 1936 avec le Front populaire. Front populaire, dans la mesure où le Front populaire a été précédé d'abord de la réunification des deux CGT. Et c'est essentiellement pour des raisons politiques et des raisons de politique, y compris de politique internationale. Vous savez que le Front populaire, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est avant même que le gouvernement de Léon Blum soit formé, l'explosion d'une vague de grève la plus forte qui ait jamais existé. Cette explosion de grève va provoquer un afflux d'adhérents considérables à la CGT. La CGT réunifiée en mars 1936, c'est 750 000 adhérents. Un an plus tard, c'est 4 millions d'adhérents. Bon. Et 1936, c'est une victoire politique de la gauche, mais c'est aussi une victoire syndicale, avec, vous le savez, les conventions collectives, les congés payés et les 40 heures. Donc, un moment tout à fait décisif pour le mouvement syndical. Maintenant, si je regarde ce qui se passe du côté de la mutualité, eh bien, il ne se passe rien. C'est bien simple, il ne se passe rien. On la voit continuer à gérer les caisses d'assurance sociale comme elle le fait, mais on voit que la mutualité est complètement, comment dirais-je, à l'écart du grand mouvement de 1936. Autant 1936 est un moment totalement symbolique dans l'histoire syndicale française, là encore, dans l'histoire mutualiste et dans le souvenir qu'on peut avoir, il ne se passe rien. 1936 est quelque chose d'important qui va permettre d'expliquer un certain nombre de transformations ultérieures, dans la mesure où ce renforcement de l'organisation syndicale, ce renforcement de la CGT, va accompagner un certain nombre de questions qu'elle se pose sur la nécessité de s'impliquer davantage, dans des services, dans des caisses d'assurance sociale, dans des politiques, dans tout un tas d'œuvres sociales qu'elle ne faisait pas avant. Et ce ne sont pas seulement les confédérés qui le font, mais aussi les communistes, le courant unitaire, et tout ceci va avoir évidemment, aura des conséquences ultérieures à Libération. Ça n'en aura pas beaucoup sous le Front populaire, dans la mesure où le Front populaire, c'est quelque chose de très rapide. Quand on parle du Front populaire, c'est une très belle aventure, mais il faut toujours rappeler deux choses. C'est d'abord que le Front populaire, c'est rapide, ça dure un an, puis après ça ne cesse de décliner, et qu'une des raisons de ce déclin, une raison très forte de ce déclin, c'est l'isolement international dans lequel se trouve le Front populaire. Vous savez que le Front populaire est confronté dès juillet 1936 à cette grande pomme de discorde qui va diviser la gauche, la guerre d'Espagne, et que par ailleurs, l'Europe est de plus en plus envahie par la marée brune, et que le Front populaire en France, un peu en Espagne, ne trouvera pas d'aide, ne trouvera pas de soutien, et que bon, les choses vont très rapidement retomber. Je passe sur la période de la guerre parce que bon, parce qu'il faudra bien que je termine et que je laisse un peu de temps pour les débats. Je dirais que à la Libération, le syndicalisme va retrouver de sa force dans la mesure où, là aussi, je n'ai pas le temps d'entrer dans les débats sur le rôle du syndicalisme pendant la guerre, la résistance, le fait qu'une partie non négligeable du syndicalisme a fait le mauvais choix. Ça, bon, il y a encore quelques années, quand on disait ça, vous disiez ça à un syndicaliste, il vous arrachait les yeux. Alors, soyons clairs là-dessus, un grand nombre de syndicalistes ont payé parfois de leur vie leur engagement dans la résistance, et ceci doit être dit, c'est une évidence. Mais il faut aussi dire qu'un nombre pas négligeable de syndicalistes et de responsables syndicaux ont fait le mauvais choix, ont soutenu Vichy sous les formes les plus diverses que soient, j'entre pas dans les détails, et que là non plus les choses ne sont pas noires et blanches. Bon, évidemment, les éléments qui ont soutenu Vichy vont être épurés à la Libération, sans ménagement, et que le syndicalisme est d'abord la CGT qui continue d'être la principale organisation française, va bénéficier de l'aura de la résistance, comme le Parti communiste. Et elle va retrouver sa force de 1936, elle va retrouver ses 4 millions d'adhérents, et évidemment, 1945, c'est les grandes réformes de la Libération sur lesquelles s'est construit ce fameux modèle social français, à mon avis, si menacé aujourd'hui, que sont les nationalisations, les comités d'entreprise, la sécurité sociale et le statut de la fonction publique. Bon, donc là aussi, un deuxième moment tout à fait décisif pour le mouvement syndical. Maintenant, si on regarde du côté de la mutualité, ben, vous inversez à peu près tout ce que j'ai dit. Vous comprenez. Bon. D'abord, pour autant qu'on la connaisse, on ne la connaît pas bien, mais enfin, pour autant qu'on la connaisse, la mutualité a fait des mauvais choix dans la mesure où elle a soutenu pendant un temps, jusqu'en début 1943, le régime de Vichy, enfin son organisation nationale, en tout cas son porte-parole, la Fédération nationale de la mutualité française, a soutenu le régime de Vichy et son principal projet social, qui est la charte du travail. Puis quand elle a vu que le vent commençait à tourner, elle s'en est écartée. Enfin bon, cette image lui colle à la peau et elle en est extrêmement marquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de mutualiste résistant. Il y en a eu, mais ils sont très très mal connus. Mais enfin bon, on en connaît un certain nombre. Beau sujet de recherche pour les historiens, j'ai commencé, mais bon, pour la petite histoire, là aussi ça montre le peu d'intérêt qu'on a sur l'histoire de la mutualité. Il ne tiendrait pas dans cette salle tous les ouvrages qui ont été écrits sur la Seconde Guerre mondiale, la résistance, etc. Il se trouve que j'ai été le premier, c'était il y a 3-4 ans peut-être, à écrire, à publier, à travailler dans un colloque sur l'histoire de la résistance, quel est le rôle de la mutualité. Là aussi, c'est quelque chose de complètement occulté, méconnu, pas simple à trouver, ça pose des problèmes d'archives, mais ça renvoie encore une fois à ce manque d'intérêt de la communauté historique pour, comment dire, ces questions. Quoi qu'il en soit, à la Libération, la mutualité ne peut pas se prévaloir, comme le font les organisations syndicales, de la réaction de la résistance. Elle fait le dos rond, elle attend que ça passe, et enfin, elle va voir la sécurité, elle va voir la création de la sécurité sociale d'un très mauvais œil pour deux raisons. Petit un, parce que la sécurité sociale est garantie par l'État, et ça, la mutualité n'en veut pas, parce que garantir par l'État, c'est autant qu'il lui est pris. Et en plus, ce qui aggrave encore les choses, c'est que les caisses de sécurité sociale vont être gérées par les organisations syndicales, comme le veut le législateur. Donc, on arrive à cette situation tout à fait curieuse. que la création de la sécurité sociale est vécue comme un cauchemar par la mutualité, et elle fait tout pour l'empêcher. Elle fait tout pour l'empêcher, elle ne peut pas l'empêcher parce qu'elle n'a pas le vent en poupe, parce qu'elle n'a pas suffisamment de relais politique, parce qu'elle est complètement, passez-moi le mot, dépassée à ce moment-là. Donc, il va bien falloir négocier, elle va négocier, elle va se réintroduire peu à peu dans la sécurité sociale dans les années suivantes, mais bon, c'est une pilule assez difficile à passer. Et désormais, bon, je vais peut-être conclure là-dessus, parce que je crois que ce serait mieux après de prendre un certain nombre de questions, de revenir sur des points. Disons que la période qui suit la libération va se traduire par une évolution lente de part et d'autre, pour le mouvement syndical et pour le mouvement mutualiste, évolution lente, dont on ne verra pas immédiatement les effets, mais qui va quand même amener les deux mouvements à se retrouver peu à peu. En gros, on peut dire que les syndicalistes vont s'engager de beaucoup plus fortement qu'auparavant dans ce que j'appelle la gestion du social, en d'autres termes, la gestion de la sécurité sociale, la gestion des comités d'entreprise. Bon, et ça, c'est tout à fait considérable. Ça existait un peu avant la guerre, pas pour les comités d'entreprise, ils n'existaient pas. Ça existait pour les caisses d'assurance sociale. Ça existe beaucoup plus fortement pour la sécurité sociale. Donc, on les voit s'engager là-dedans, non sans hésitation. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé à regarder les hésitations, là encore, de la CGT au début des comités d'entreprise, parce que, oulala, si on s'engage là-dedans, on fait du réformisme. On est les porte-serviettes du patron, mais d'un autre côté, c'est qu'on a important, faut y aller. Donc, bon. C'est la patate chaude, on ne sait pas très bien quoi faire de cet objet, puis le temps passé, on s'y habitue très bien. Même chose avec la sécurité sociale. Du côté de la mutualité va perdre peu à peu l'aspect de notable qu'elle avait, et encore très fort à la libération. Très très fort à la libération. C'était encore un machin, une organisation dirigée par des gérants, des personnes gérantes très âgées, et notable, qui avait fort peu à voir avec le mouvement syndical. Donc, peu à peu, il va y avoir une transformation qui va être facilitée par le fait qu'un nombre croissant de mutualistes vont intervenir dans les comités d'entreprise. C'est alors que vont se développer les grandes mutuelles de fonctionnaires. Je pense à la MGEN, peut-être certains d'entre vous connaissent. Je pense à des mutuelles de la fonction publique comme les mutualités postales. Et que c'est dans ces mutuelles, on commence à trouver un certain nombre de syndicalistes, ce qui est chose tout à fait nouvelle, et que donc il y a un lent rapprochement qui s'opère avec le monde syndical. C'est pas visible. Si je vous donne un nom, celui de Jacques Sennett, ça ne vous dira absolument rien. Ben, Jacques Sennett était le principal. Était président de la Fédération nationale des mutualités françaises de 1950 à quasiment 1968. Il était un des grands artisans de cette transformation. Lui-même était syndicaliste à Force ouvrière, d'abord CGT confédérée, ensuite à Force ouvrière. Il est à la tête d'un mouvement de plus de 5 millions de personnes, parce qu'il y a déjà au moins 5 millions de personnes en libération, et lui va faire pour en sorte que la mutualité se rapproche peu à peu du mouvement syndical. Donc, vous voyez, la parenthèse est en train de se refermer. Elle va se refermer lentement, très lentement, parce que les préventions existent, parce que les méfiances existent, parce que, bon, tout ça, je veux dire, les cultures des uns et des autres ne conduisent pas au rapprochement. Toujours est-il que, bon, le rapprochement va quand même se faire peu à peu. Symboliquement, je dirais qu'il se fait en 1967. Je terminerai là-dessus. 1967 ont été, appliqués, décrétés, votés, non pas votés d'ailleurs, décrétés, ce qu'on appelle les ordonnances Jeannet. Les ordonnances Jeannet, c'est des ordonnances qui réorganisent la sécurité sociale, en particulier en réduisant fortement, ça c'était au début de l'opération, le poids de la CGT. Le poids de la CGT qui était très fort. Et, bon, et qui prend d'autres dispositions, je passe aux détails. Ces ordonnances Jeannet ont provoqué la colère des syndicalistes CGT et CFDT, pas Force ouvrière, mais c'est une autre histoire. Et, bon, elles ont aussi provoqué l'émotion des mutualistes. Et on voit pour la première fois de leur histoire, les uns et les autres, mener des actions communes. Je rappelle que le grand mouvement 68 a changé un certain nombre de choses. Il n'a rien pu faire sur les ordonnances Jeannet, comme l'a d'ailleurs regretté ultérieurement Georges Séguy, le dirigeant de la CGT, donc c'était comme quelque chose d'important. On peut dire qu'à partir de cette époque, un certain nombre des préventions, des hésitations, des difficultés qu'il y avait eu entre les uns et les autres commencent à s'estomper et que bon, les deux mouvements commencent à se rapprocher. Et donc, si je résume, deux mouvements qui ont été séparés, même si le syndicalisme n'existait pas en tant que tel, depuis le début des Grand Empire, les années 1850, jusqu'à 1968, un siècle, c'est quand même long. Un siècle, c'est quand même long. Et j'ajoute une chose, c'est que cette séparation, je le répète, explique beaucoup de choses, beaucoup de particularités de l'histoire du syndicalisme français, et que, quand on discute dans des organisations syndicales, et je l'ai fait souvent, on entend encore parler de cette séparation. On voit que, par exemple, les syndicalistes qui s'occupent de questions sociales, souvent, passez-moi l'expression, c'est des syndicalistes de seconde zone. Parce que les questions sociales, la protection sociale, oui, bon, d'accord, c'est bien, mais enfin bon, ce qui est important à voir, c'est revendiquer, etc. Donc, on voit que cette culture de la contestation, de la revendication, de la grève, de parfois du langage violent, elle est très forte encore dans le mouvement syndical. Il y a bien des raisons, je ne parle pas, je n'ai pas du tout parlé ni des responsabilités de l'État et du patronat qui sont énormes en la matière, qui sont énormes. Mais, bon, disons que la séparation du mouvement syndical et du mouvement mutualiste, à mon avis, a encore conforté cette tendance. Et je persiste à penser qu'on a quelque chose de tout à fait particulier en Europe. Ce n'est pas du tout par nationalisme que je pense, mais quelque chose de tout à fait particulier par rapport à l'Europe et qui pèse encore très fortement dans la modalité collective. Je vous remercie.